Merci encore d'être venu ce matin. Je sais que Dieu a un plan pour chacun de nous. Je voudrais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises bienvenue dans la maison du Seigneur. La vie est un don et c'est une grâce de notre Dieu. Et quand on est en vie, on doit avoir la culture de toujours dire merci à Dieu. Et quand nous venons à l'église, il faut toujours dire à l'autre, je suis content de te voir aujourd'hui encore. Vous pouvez vous réveiller un matin et il n'est plus. Il est allé dans la gloire. Nous savons, même si nous savons qu'il est dans la gloire, mais ça fait quand même mal dans le corps de ne pas être en mesure de voir la personne avec laquelle on a été. Et cela nous fait mal au cœur, n'est-ce pas? Regarde ton voisin, donne-lui un sourire. Le sourire est gratuit. Donne-lui un sourire, c'est gratuit, ça ne coûte pas cher. Sincèrement, le sourire est gratuit, il ne coûte pas cher. Ça doit être un sourire sincère, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Vous ne savez pas comment il a dormi ou comment elle a dormi. Et quand vous lui donnez votre sourire, ça lui rappelle que son Dieu l'aime autant que vous. Alléluia. Merci encore, mon frère Maurice. Merci encore, maman. Merci pour tout le leadership, pour l'amour que vous nous portez chaque fois que nous sommes ici. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'était au Minnesota. Il me dit, comment tu as fait pour être si facilement adopté dans la famille là-bas? J'ai dit, je ne sais pas. Quand les gens ont le même esprit, l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je crois sincèrement que Dieu prend très au sérieux les transactions de son royaume, qu'il est aujourd'hui occupé à mettre les gens qui coulent ensemble, ensemble. Parce que le temps court vite et le Seigneur est sur le point de revenir. Il y a beaucoup de choses qui se passent de gauche à droite. Dieu est dans le business de rallier, de réorganiser les alliances, de recoordonner les amitiés. Et dans ces processus-là, il y a des amitiés qui vont mourir, il y a d'autres qui vont naître. Et si ça se passe, ne te sens pas trop mal. C'est-à-dire, quand une saison a changé, sois prêt à t'adapter. Le matin, le pasteur qui a prêché ici nous a bénis énormément. Et quand le pasteur Maurice m'a dit, non, est-ce que vous pouvez interpréter pour lui parce que l'interprète n'est pas là à temps, j'ai dit, quelle opportunité, une fois encore, de servir le Seigneur. Je dois vous dire une chose, mes amis. Dans la maison de Dieu, on n'est jamais trop grand, on n'est jamais trop petit. Si vous êtes là au bon moment et qu'il n'y a personne, vous faites ce que Dieu vous veut vous presser. Hallelujah. Et j'ai été content, mon frère, de vous dire que c'était une joie. Merci de l'opportunité d'exercer encore les dons de l'interprétariat que j'ai exercé il y a très longtemps. Ça, c'était formidable. Hallelujah. Et le message a été bon. On a été bénis, n'est-ce pas? Je vous prie de recevoir les amitiés et les salutations de vos frères et sœurs du Minnesota aux États-Unis. Merci. Pouvons-nous nous lever pour lire la parole de Dieu, si ça ne vous dérange pas? Luc chapitre 22, le verset 31 et le verset 32. Ce matin, je vais parler sur un thème que je développe depuis un temps, parce que le Seigneur m'a mis cela à cœur. Parfois, je l'enseigne aux serviteurs, parfois aussi aux enfants de Dieu dans les églises. Et le thème s'intitule « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Est-ce qu'on peut repartir au premier verset, le verset 31? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Considérez, au premier verset, il dit, Satan vous a réclamé. Il n'a pas seulement réclamé Simon, il les a réclamés tous. Alors, deuxième verset, Le verset 32, après il dit, « Mais je priais pour toi. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais je priais pour toi. » Il vous a tous réclamé, mais je priais pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel, afin que nous soyons bénis ce matin, Seigneur. Que ta parole puisse cibler nos cœurs, nous transformer, nous amener là où tu veux que nous allions, afin que les alliances que nous avons avec toi soient préservées et que nous puissions marcher dans la confiance, une confiance inébranlable, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tu reviennes dans ta gloire et prennes l'Église, afin que nous soyons avec toi dans l'éternité. À toi soit l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Mettez-vous. Jésus appelle Simon-Pierre. Comme nous avons vu, il lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Satan a réclamé qui tout ce que le Seigneur avait choisi pour le cribler, en d'autres termes, pour le faire passer par une sorte de tamissage de preuves, et par cette voie-là, peut-être en détruire ou détruire la foi de certains. Mais Jésus a dit, « Je priais pour toi. » Pourquoi ? Parce que quand nous voyons dans la suite des temps ce qui est arrivé aux disciples ou aux apôtres, ils sont tous morts d'une mort atroce. À l'exception de Jean, qui n'était pas mort par martyr, qui n'était pas tué, il était le seul à vivre jusqu'à l'âge d'à peu près 110 ans, et le seul à mourir d'une mort naturelle, mais après avoir été persécuté, après avoir été relégué en exil sur l'île de Patmos où il a écrit le livre d'Apocalypse, il a aussi connu sa persécution, mais Dieu n'avait pas permis qu'on le tue. Quand nous voyons leur parcours, tous sont morts de manière brutale. Pierre a été crucifié, tête en bas, pied en l'air, Paul a été décapité. Tous sont morts de manière extraordinairement difficile. Alors nous comprenons ce que Jésus est en train de leur dire ici. Et quand il parle à Simon dans ce dialogue entre Jésus et Simon, il lui parle de ce qui va se passer. Il lui parle de l'agenda du diable. Pourquoi ? Parce que chaque fois que Dieu t'appelle, le diable aussi te marque. Je vais le répéter. Quand Dieu t'appelle ou te choisit, Satan aussi te marque. Il place sa marque sur toi. Tu deviens non pas seulement une entreprise divine, tu deviens seulement non plus une cible du Seigneur pour ce qu'il veut faire de toi, mais il y a aussi une autre cible sur ta tête pour détruire ta destinée. C'est comme ça que la question parfois que nous, enfants de Dieu, nous nous posons, nous disons, mais Seigneur, tu m'as appelé, qu'est-ce qui m'arrive? La réponse est dans ta question. Ce qui t'arrive, t'arrive parce que Dieu t'a démarqué. Et l'intensité de l'attaque que tu connais est proportionnelle à la dimension de ton appel et à la dimension du but pour lequel Dieu t'a créé. Si tu n'étais pas important au royaume de Dieu, le diable ne détruirait pas autant de ressources pour te rabaisser. Si tu n'étais pas aussi important dans les calculs de Dieu par rapport à la destinée qu'il a de l'humanité, le rôle que toi tu dois jouer, Satan n'allait pas allouer autant de moyens pour chercher à te détruire. Il a fait tuer des enfants innocents. Ce qu'on appelle dans l'histoire les massacres de bébés. Pour ceux qui ont eu le cours de l'histoire de l'Église, on parle de massacres d'enfants dans l'histoire. Et c'est même écrit par des auteurs païens sur le massacre d'enfants où le roi Hérode a ordonné le massacre des enfants des oraux à 2 ans simplement parce qu'il voulait détruire Jésus avant qu'il ne devienne roi parce qu'il pensait que Jésus était né prophétiquement pour le remplacer sur le trône d'Israël. Physiquement, je veux dire. Alors que le plan de Dieu était tout autre. Vous savez, une chose qui me console, c'est que vous allez remarquer que même en faisant cela, il tâtonnait. Il n'avait pas la précision de l'enfant lui-même. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu vous marque, il vous protège aussi. Mais mon but ici, c'est de vous montrer à quel point et donner un sens au sérieux et à la sériosité de cette discussion entre Jésus et Pierre. Parce que parfois, quand nous lisons la Bible, nous passons trop vite. Nous ne réalisons pas l'intensité, la profondeur de ce qui se passe en ce moment-là entre Christ et son maître, entre Jésus, plutôt entre Christ et son disciple, et entre Pierre et son maître. Il dit, Satan vous a réclamé, vous, le 12. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi toi, Pierre? Parce que Pierre devait jouer un rôle central dans la solidification de 12, dans l'édification de 12. Il était marqué par Jésus pour être le chef, la tête. Et vous allez remarquer que même dans l'histoire, ce n'est pas lui qui va diriger la grande église de Jérusalem. Ça, c'est James et c'est Jacques qui va diriger. Mais Pierre est resté le pilier numéro un. Et on voit dans toute la Bible que Pierre, même quand Paul s'est converti, on a d'abord amené Paul auprès de Pierre par Barnabas pour l'introduire aux disciples. Il fallait l'approbation de Pierre et des autres pour qu'ils soient acceptés dans le club. Et c'est parce que Pierre devait jouer ce rôle-là que Jésus s'est focalisé sur lui pour dire, écoute, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. C'est-à-dire qu'il avait aussi réclamé Judas, mais il n'a pas prié pour Judas. Il a prié pour Pierre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il détestait Judas, parce qu'il savait que Judas était appelé avec une mission. Quand nous marchons avec Dieu, il ne nous amène pas seulement nos amis. Il nous amène aussi des agents qui ont en eux l'objectif de nous amener là où nous devons partir. Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi le 12 et l'un d'entre vous est un démon. Pourquoi Dieu appellerait un démon dans une démarche qui ne concerne que le sang? Parce qu'il y a des portes dans la vie que les amis ne peuvent pas ouvrir. Il y a des portes dans la vie que les ennemis ne sont les seuls qu'à fermer. Parce que dans une destinée, on ne peut pas entrer dans toutes les portes qui s'ouvrent. Il faut bien que certaines portes se ferment. Mais si tous ceux qui sont dans votre destinée sont des amis, ils laisseront toutes les portes ouvertes, vous allez perdre le temps. Même si vous n'allez pas perdre votre destinée, mais vous allez être retardé par rapport à elle. C'est comme ça que Dieu envoie les amis pour vous encourager et les ennemis pour vous fermer les portes, pour que vous puissiez vous focaliser sur son objectif. Automatiquement, ceux qui vous bloquent pensent qu'ils vous bloquent, mais en réalité, ils jouent un rôle sans le savoir. Parce que votre destinée est gouvernée par Dieu et non pas par les hommes. Là, nous réchitons sur ce que notre ami a dit, que quand on est avec Dieu, il faut lui faire confiance. En l'absence de la raison, en l'absence de la compréhension, quand les choses n'ont plus de sens, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Quand Jésus, la deuxième des choses que nous apprenons dans ces passages, Jésus utilise le terme converti. Il dit, quand tu seras converti, je priais pour toi. Ça veut dire que je priais pour toi afin que le plan du diable dans ta vie ne s'accomplisse pas. Tu ne seras pas celui qui va me trahir, tu seras celui qui va mourir pour moi. Ça, ce n'est pas ton travail parce que j'ai déjà envoyé quelqu'un pour ce travail-là. Le diable, lui, ne veut pas de Judas, il veut de toi. Or, moi, j'ai un plan avec toi. Ça, c'est le travail de Judas. Parfois, laissez les Judas faire leur travail. Quand on est distrait à combattre les Judas, on perd le focus sur sa destinée. Les Judas ne sont pas nos ennemis. Les Judas sont nos partenaires mal perçus. Ce sont des partenaires mal compris. C'est des partenaires indésirables, mais ils doivent être là. Moi, je suis un produit de Judas. Le pasteur est un produit de Judas. Quand les Judas sont là, ils bloquent. Ça crée la créativité spirituelle. Ça crée l'innovation spirituelle. Quand je ne peux plus passer là où Judas a fermé, je vais chercher Dieu dans la profondeur pour que l'obstacle devienne une opportunité pour moi. En fait, les amis ne nous poussent pas à la prière, nos ennemis nous poussent à la prière. Plus meilleur encore, mes amis, les Judas, on ne les tue pas. Les Judas s'auto-tuent après la mission. Regarde ton voisin, dis-lui,
À partir d'aujourd'hui, je prierai pour mes ennemis.
Des ennemis, les ennemis sont des alliés ignorants. Ils pensent qu'ils nous font du mal, alors qu'ils sont employés. Ce sont des employés à l'entreprise de ma destinée. La deuxième des choses, Jésus utilise des termes convertis. Ça veut dire que Jésus travaille avec quelqu'un qui n'est pas converti. Il dit, quand toi, tu seras converti, affermi, tes frères. En d'autres termes, c'est que Christ nous montre vraiment ici ce qu'il a choisi Pierre, pas parce qu'il était déjà produit fini. Il a choisi Pierre sachant qu'il était un travail en continuité. Il l'a choisi pas en fonction de ce qu'il est. Il l'a choisi en fonction de ce qu'il deviendra ou de ce qu'il fera de lui. C'est comme ça qu'il lui dit, déjà j'ai été choisi, je travaille avec toi, c'est ça ce que tu dois faire. Mais entre maintenant et le temps de ta croissance, il y a une saison. Et dans cette saison-là, tu vas me renier, tu seras brutal, tu vas couper l'oreille du serviteur de sacrificateur, tu vas faire des choses. Tu es un homme impulsif. Malgré tout ça, je ne vois pas ça parce que tout ça c'est secondaire, c'est passager. Je vois ce que j'ai déjà fait avec toi demain ou 10 ans d'ici. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de faire une promesse, il va au futur. Il règle la question. Il revient au passé où toi tu te trouves. Il te fait la promesse et il t'attend au présent pour t'accompagner dans ton futur. Et pour que toi tu marches avec Dieu, tu dois lui faire confiance. S'il y a une chose que Dieu ne fait jamais, une chose que j'ai constatée dans ma marche avec le Seigneur, c'est que Dieu, la faiblesse de Dieu, c'est qu'il n'explique pas les détails. Il a demandé à Moïse de prendre les enfants d'Israël, de les amener dans la terre promise. Au point où Moïse est arrivé à un moment où il dit, ça c'est trop. À cause d'eux, Moïse a même manqué le ciel, plutôt la terre promise. Mais il n'a pas dit à Moïse tout ce qui s'est passé. Il lui a seulement dit, je serai avec toi. Et quand finalement Dieu se décide à un moment du parcours qu'il ne va plus aller avec eux, Moïse va lui dire, souviens-toi des deals que nous avons. Ce sont ton peuple. Dieu lui dit, prends ton peuple. Dieu se détache. Vous pouvez vous rendre compte la nature de l'homme qui pousse Dieu aussi, plein d'amour pour lui, à se détacher. Pour dire, Moïse, prends ton peuple, va avec lui. Moïse lui dit, non, Seigneur, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Que diront les nations? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas ce qu'il voulait, ce qu'il faisait. Il opérait seulement dans le réalme des hommes. Il opérait dans la nature de l'homme, dans le langage que l'homme peut comprendre. Moïse s'est dit, non Seigneur, si tu ne marches pas toi-même devant nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu parle si quand tu seras converti. L'expression quand tu seras converti nous montre qu'il y a un travail à venir dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Même si Dieu a déjà un plan pour toi, comme il a dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais le projet que j'ai pour toi. Et c'est en fonction de cela qu'il nous appelle, en fonction de cela qu'il nous crée. Vous savez combien de semences se retrouvent dans la course quand un homme et une femme viennent ensemble pour que toi tu sois né? Des milliards! Mais dans tout ça, toi tu as gagné cette bataille-là depuis la naissance. Et pourquoi Dieu a permis que ce soit toi? C'est en fonction de là où tu vas. Et la qualité de ta destination détermine la quantité et l'intensité de ton combat. Non, tu ne m'as pas entendu. La qualité de ta destination finale détermine l'intensité et la quantité de la résistance. Quand si le diable sait que toi, tu ne vas qu'influencer une ou deux personnes, l'intensité est petite. Mais s'il sait que comme Jésus, comme Pierre, il regarde l'impact
l'impact de ce que cet homme deviendra. Par contre, le diable ne peut pas lire l'avenir. Il ne peut que tâtonner, imaginer. Il ne peut... En fait, quand le diable regarde l'intensité de la protection divine autour de toi, ça lui donne une idée de ce que de là où tu pars. C'est-à-dire, la multiplication des combats, c'est une indication que le diable est en train de voir des maillons de sécurité que Dieu ajoute autour de toi. Il s'est dit, mais comment Dieu peut dégager autant de sécurité pour cet homme? Ça veut dire qu'il y a une destinée beaucoup plus grande. Je vais perdre. Pour ne pas perdre, je le tue maintenant. C'est comme ça que l'intensité s'intensifie. Pas parce que Dieu ne regarde pas. C'est justement le contraire. C'est parce que Satan est en train de voir l'agitation autour de toi. Il s'est dit, non, 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 non. On ne peut pas allouer autant de moyens pour protéger Maurice. Ça veut dire qu'il va quelque part. Et le combat, les gens ne voient que ce que les yeux ne peuvent voir. Mais ce qui se passe dans le spirituel, c'est le diable qui panique. Dis à ton voisin, c'est Satan qui a peur. Satan est un homme d'affaires avéré. Il gère très bien ses ressources. Il gère très bien ses démons aussi. Il gère très bien ses sorciers aussi. Il ne peut pas allouer autant de ressources pour une personne qui ne va nulle part. Quand tu es dans le Seigneur, tu sais que tu ne vis pas dans le péché. Tu crains ton Dieu. Tu marches à la droiture. Et malgré tout ça, le combat est fort. Ce qui est vrai, tu dois toujours te souvenir que la Bible déclare à moi le combat et à moi la rétribution. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Et aussi tu dois te souvenir que Dieu dit reste calme. L'Éternel combattra pour toi. Le calme ne veut pas dire l'absence de larmes. Je vous l'ai toujours dit. Le calme ne veut pas dire l'absence de larmes. Le calme peut s'opérer avec une rivière de larmes. Parce que tu ne pleures pas comme un perdant, tu pleures comme un gagnant. Et tu pleures pour gérer les émotions physiques. C'est comme ça que Dieu t'a donné des larmes pour t'aider à traverser la tempête de la douleur. Les larmes sont une réponse de Dieu à la prière. Dieu, pourquoi ? Tu pleures, les gens disent, ah, il n'a pas de foi. Non, 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 c'est ça même la foi. Parce que même avec mes larmes, je n'abandonne pas. Je continue à pousser. On attend que je jette l'éponge, je ne jette pas. Je continue à pousser. Mes larmes sont un badge d'honneur que je suis humain. Dieu va plus loin. Il dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu seras arrivé, le terme affermi veut dire mature. Le terme converti veut dire quand tu seras changé, transformé. Parce qu'il n'est pas encore transformé. Souvenez-vous que cette conversation se passe avant qu'il puisse nier Jésus. Parce que quelque peu, seulement quelques temps après, il va renier Christ trois fois. C'est-à-dire que Jésus voyait tout ça. Il dit, quand tu m'auras renié devant la servante du prêtre, il lui a même dit, tu vas me renier trois fois. Il lui dit, prends soin, fortifie tes frères. Après, Pierre va les renier. En fait, ce que Jésus lui disait, c'est que je comprends que la marche avec moi n'est pas une expérience facile. Pourquoi vous pensez que Dieu nous donne la troisième personnalité de la divinité pour nous accompagner? Le Saint-Esprit. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas dans les calculs. La vie chrétienne ne se vit pas dans le technique, mes amis. Ça ne se vit pas dans le stratégie. C'est impossible. La vie chrétienne se vit par le Saint-Esprit. C'est impossible de faire des stratégies. C'est impossible. Il n'y a que le Saint-Esprit. Même dans, quand il nous dit dans le livre des Actes, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Ça, ce n'est pas une vie qu'on vit sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une vie qu'on vit sans le Saint-Esprit. Amen. Devenir un millionnaire chrétien sans le Saint-Esprit. Mais comme au maillot. Devenir même un directeur d'une compagnie où tu diriges 5 personnes sans le Saint-Esprit. Mais tu vas mourir. Parce que l'homme est créé comme son Dieu. Dieu est créé pour la gloire. L'homme aime la gloire aussi. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui nous maintient là où nous devons être. C'est pourquoi tu vois les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, une fois que la gloire descend sur eux, ils veulent devenir Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous maintient dans notre couloir. Oh. Et quand tu seras converti, ça veut dire que Dieu commence le voyage avec nous dans nos faiblesses. Et il dit, Proverbe chapitre 24, verset 16, il dit, dans cette marche vers ta conversion, tu vas parfois tomber. Mais cette fois, mon juste tombe, et cette fois, il se relève. Ce n'est pas une licence de péché à volonté. Oh, la Bible dit cette fois, mon juste tombe, je peux tomber. Non, 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 non. Ça, c'est une provision pour ceux qui ont réellement tombé. Quand on tombe, on ne calcule pas. On ne prépare pas de tomber. Ça s'appelle tomber, imprévu. Quand on calcule et on arrive à tomber, on dit que je suis tombé. Non. Ça, ce n'est pas tomber, ça, c'est entrer à volonté. Parce que tu as eu le temps de fuir, tu n'as pas fui. Tu as eu le temps de voir que ça, c'est l'argent de l'État. Mais ta tête t'a dit, on ne vole pas. Toi, tu voles, après tu dis, je suis tombé. Non, ça, ce n'est pas tombé. Et même quand on tombe, Dieu dit, cette fois, pourquoi? Parce que tomber dans un mal, c'est humain. Mais justifier le mal, c'est dangereux. Il se relève, le juste tombe, il se relève. Comment on se relève? Par le biais de la repentance. Parce qu'on n'a pas planifié de tomber. Mais parce que c'est un combat. Il y a des fois, tu gagnes des batailles, il y a des fois, tu perds des batailles. Et quand tu perds des batailles, tu t'élèves, tu connais la formule quand on a perdu. On ne justifie pas la chute. On ne justifie pas la chute. Quand on justifie la chute, en réalité, c'est parce qu'on est en train de construire son ego. La justification de la chute n'est rien d'autre que la construction de l'ego individuel. Parce qu'on s'est dit, moi, je ne veux pas que les gens pensent que c'est moi qui... Non, 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 dans ce cas, ça devient biblique. C'est comme j'ai appris qu'à l'époque, le roi de France, chaque fois qu'il commettait une erreur dans la langue de Voltaire, il imposait par décret que l'erreur devienne francisée ou acceptée. C'est comme ça que nous parlons de la sentinelle, on m'a dit, allez, parlez. Parce que le roi a commis une erreur, j'aurais appris. Ça, c'est l'ego. Je ne peux pas faire l'erreur. Moi, je suis au-delà de l'erreur. C'est ça. Quand on justifie le péché pour apaiser sa conscience, on dit à Dieu, toi, tu es petit, moi, je suis Dieu. La repentance, c'est de dire, tu resteras toujours Dieu et je suis petit. Aie pitié de moi. Jésus savait que Pierre l'aimait. Quand il parlait, il savait que Pierre l'aimait. Et plus, on va même le voir dans le livre de Jean, au chapitre 21, le verset 15 à 17. On nous dit que Jésus est venu vers Pierre. Encore cette fois-ci, alors qu'ils étaient en train de pêcher, ils n'ont attrapé aucun poisson. Nous sommes dans Jean 21, 15 à 17. Il est encore revenu vers Pierre. Cette fois-ci, c'est après la résurrection. Quand il lui parle de la tentation, quand il lui parle de la conversion, il lui dit, quand tu seras... C'est-à-dire, il disait à Pierre, quand tu seras l'apôtre que je t'ai appelé à être. Maintenant, là, tu n'es pas encore l'apôtre que je t'ai appelé à être, mais je suis avec toi. Mais tu vas vers l'apôtre que je t'ai appelé à être. Quand tu deviendras cet apôtre-là, fortifie les autres. Effectivement, quand Pierre est devenu cet apôtre-là, il a édifié les autres. Jusqu'à servir d'exemple en allant à la croix lui-même. Et les gens qui le crucifiaient, il leur a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. crucifiez-moi la tête en bas, le pied en l'air. Cette marque-là, c'est là où Jésus l'attendait. Mais entre les disciples Pierre, Simon et l'apôtre Pierre, il y a eu toute une génération de transformation. Dieu ne l'a pas appelé en fonction de Simon. Dieu l'a appelé en fonction de Pierre. Dieu est allé, il a fini d'abord le travail de l'apôtre, il est allé l'appeler comme disciple. Parce que Dieu commence d'abord à la fin des choses et il remonte jusqu'au commencement. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, l'appel de Dieu dans ma vie n'est pas un accident. Je suis exactement là où Dieu voulait que je sois. Ce qui m'est arrivé n'est pas un accident. Je suis exactement là où Dieu veut que je sois. Dans Jean chapitre 21, verset 15 à 16, on nous dit, bon, c'est pas grave, on nous dit, Jésus va dire à Pierre, trois fois il nous dit, hein, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que eux-mêmes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Trois fois, il insiste, trois fois. Et la troisième fois, qu'est-ce que la Bible nous dit? La troisième fois, on peut sauter jusque là. Le verset 17. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Ce qu'il lui avait dit, pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Pourquoi trois fois? Il voulait dire à Pierre, je veux que tu comprennes que cette entreprise est sérieuse. Je veux que tu comprennes que cette histoire, cette marche que tu vas entreprendre avec moi, n'est pas une aventure. Peut-être que tu es venu dans l'excitation, dans le plaisir, dans la joie. Mais je veux que tu réalises que cette marche-là, le fait même que je t'ai appelé, tu es déjà coupable par association. Le monde te considère comme un homme à abattre parce que tu es avec moi. Le prix que tu vas payer est énorme. En fait, Pierre, ce qu'il lui dit, la Bible nous dit, il lui montra par quelle voie il allait mourir. C'est-à-dire, il lui dit, Pierre, ce que tu fais maintenant là, va t'écouter la vie. Est-ce que tu m'aimes malgré tout ça? C'est ce que notre frère a dit le matin. On aime Dieu malgré tout. Il dit, est-ce que tu m'aimes sachant ce qui arrive, Pierre? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes troupeaux. La même chose qu'il lui a dit avant, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand on marche avec Dieu, mes amis, l'alliance que nous avons avec Dieu n'est pas une chose à jouer avec. Ça nous coûte la vie. Nous payons le prix, un grand prix, mais nous savons à qui nous payons le prix. Et pour qui nous payons le prix? Parce qu'il n'est redevable de personne. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que le prix payé ne profite pas seulement à toi, mais à tes descendants, de génération en génération en génération. L'investissement que tu fais avec Dieu est à multiples générations. Et c'est ça ce qui est extraordinaire avec Dieu. L'Église, comme nous le savons à travers l'histoire, l'Église était née dans le sang de Jésus. Mais les 200 premières années de l'Église, c'est de l'histoire écrite dans le sang. Plus de 5 millions de personnes ont perdu leur vie comme martyrs. Pour établir l'Église aujourd'hui, parfois que les gens jouent avec. C'est une institution extraordinaire. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ces quatre murs. Je parle des groupements, des gens, toi et moi. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour qu'il meure pour toi et moi. Quand nous pensons à ces choses, ça devient facile de sacrifier sa vie pour le Seigneur. Vous comprenez alors pourquoi les gens marchaient avec chant d'allégresse alors qu'ils allaient à la mort? Parce qu'ils avaient compris ce que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est extraordinaire ce qui se passe. Parce que l'Église, elle est puissante. Quel que soit le pays où nous nous trouvons, l'Église, elle est la même. Tu n'es pas une Église pauvre parce que tu es au Congo. Tu n'es pas une Église riche parce que tu es en France. L'église n'est pas riche parce qu'il est aux États-Unis. Non. L'église est riche parce que l'église a un Dieu riche. Et mes amis, quand je parle de la richesse, je ne parle pas des ressources. Je ne parle pas du salaire que les autres gagnent. Je parle du Dieu, de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu qui s'est traduite au-delà des richesses physiques. Moi, quand je rencontre les bien-aimés comme vous, le frère de la borne, et les autres, ça me fait beaucoup de bien. Parce que dans la tête, vous croyez en un Dieu grand. Ne vous faites jamais petit. Ne nous faisons jamais petit. Parce que nous sommes dans un pays meurtri par des choses. Tu es la réponse à la prière. Notre jeunesse est la réponse à la prière. Dieu a défié Pierre. Le Dieu Jésus, il a défié Pierre. Il dit, quand tu seras comme, quand tu seras arrivé là où tu dois arriver, quand tu seras devenu apôtre, parce que maintenant tu ne l'es pas encore, dis à ton voisin, je suis en marche vers l'accomplissement de ma destinée. Ah, mais toi là aussi, qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Depuis que tu as commencé à prier, hein? Moi je pensais que toi, tu sais que tu m'avais menti hier. Ah, pardonne-moi mon frère, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est ça l'attitude d'un chrétien.
Amen.
Toi aussi tu mens. Non, je ne mens pas, mais j'ai menti. Désolé.
Amen.
Tu prends responsabilité de ton acte, tu t'en repens et Dieu oublie. Les hommes n'oublient jamais, mais Dieu oublie. Maintenant, qu'est-ce qui est préférable? De t'accrocher aux hommes qui n'oublient jamais, de faire les deuils qui continuent à te rappeler cela, ou de t'accrocher à Dieu qui a oublié. Quand il te voit maintenant, c'est comme si tu n'avais jamais péché, parce que le sang de Jésus efface et nettoie plus que les Javel. Toi là, tu prêches encore. C'est pas toi qu'on a attrapé hier là à l'hôtel. Oui, c'était moi. Pardonnez-moi, je sais que j'ai commis un scandale. J'ai déshonoré mon Dieu. J'ai été suspendu. Je reste, j'obéis à la suspension. Je confesse mes péchés. J'ai dit, j'ai commis un péché grave. Et tu t'en sers pour enseigner aux autres. Mais tu ne dis pas non. Oh, l'église, cette église-là. Non, ils avaient menti. J'ai quitté là-bas. Maintenant, je suis à l'église. Tout le monde est bienvenu. Je suis maintenant membre de l'église, tout le monde est bienvenu. Chez nous, on ne juge pas. Ces églises-là, on juge toujours les gens. On juge les gens comme si elles, ce sont des saints. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de saints. Mais nous battons pour atteindre la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Parmi nous, il y en a qui tombent. Mais quand nous tombons, nous disons, je suis tombé. Ce n'est pas toi qu'on a attrapé. Oui, c'était moi. Mais Dieu m'a pardonné, l'église m'a pardonné, j'espère que toi aussi tu peux me pardonner. Et s'il ne te pardonne pas, tu ne peux pas laver la tête des hommes. Si le cœur de ton Dieu est nettoyé par ton pardon, c'est ce qui compte. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui compte et non pas les hommes. Pourquoi j'ai dit ces choses? On a perdu beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que quand ils tombent, il pense que Dieu, c'est un Dieu punisseur. Ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est le péché non traité qui nous punit. Quand le péché est traité, quand il est reconnu, quand il est nettoyé, Dieu ne punit pas ceux qui se repentent. C'est la loi de Dieu qui punit ceux qui ne se repentent pas. Les gens qui ont conçu nos lois, certains ne sont plus. Mais ces lois ont le même effet. Ce n'est pas Dieu qui punit. C'est la loi de Dieu. Et une fois qu'on se met en ordre avec la loi de Dieu, les hommes peuvent garder des albums de ce que tu as fait hier. Dis-leur, je suis content. Tu lis le journal de mon passé pour t'aider à comprendre la grandeur de mon Dieu et te permettre de mesurer mon futur. Ah, tu ne m'as pas entendu. Ah non, tu ne m'as pas entendu. Quelqu'un s'accroche à ton passé. Toi, tu étais comme ça. Toi là, qui ne te connaît pas, tu étais comme ça. Toi là, qui ne te connaît pas? Tous les bars de Matadi, tu étais le patron. Qui ne te connaît pas? Tu dis merci. Ça, c'était l'homme qui est mort avec Christ. C'est lui-là maintenant. Oh non, mais hier, tu es tombé. Oui, j'étais tombé. Mais je ne suis plus tombé. Dieu m'a pardonné. J'ai reconnu mon péché. Le Seigneur m'a pardonné. L'Église m'a pardonné. Et tu avances. Tu leur dis, non, 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 je suis content que tu gardes encore un souvenir de mes erreurs. Ça te permettra de mesurer la hauteur de ma croissance. Nous ne sommes pas une église qui juge. Jésus n'a pas jugé Pierre, mais il l'a averti. Et quand nous tombons, nous ne justifions pas, nous nous repentons. Et nous allons encore tomber parce que le ciel n'est pas encore là. Et nous allons encore nous repentir parce que Jésus n'est pas encore revenu. Oh, mais ces gens-là, ils pensent quoi? Moi, je ne vais plus là-bas. Moi, je vais à l'église évangélique, tout le monde est le bienvenu. Là-bas, chez nous, on prêche seulement le bonheur. Vous irez au ciel. Vous aurez des voitures. Répétez après moi, j'ai la maison. L'argent est dans ma poche, l'argent est dans ma poche. Répétez après moi, j'arrache le mariage. Mais on n'arrache pas. Moi, chez nous, c'est seulement les miracles. Chez nous, les miracles, c'est... Chez nous, les miracles. L'apôtre qui touche et le miracle s'opère. Chez nous, c'est comme ça. Vous savez comment on va au ciel? On ne part pas au ciel à cause de l'exercice du ministère ni des dons. Le ciel, on y va à cause de l'exercice du cœur. Je vais finir bientôt. Il y a quatre choses importantes que nous constatons dans cette discussion entre Pierre et Jésus. Ce que nous remarquons, c'est que c'est par amour que Jésus avertit Pierre. C'est par sa grâce aussi qu'il va le soutenir. Et c'est par le pardon que Pierre va continuer à exercer. Et c'est par l'espoir qu'il va mourir. Ni était l'amour de Jésus, il ne se serait pas occupé à l'encourager avant que le mal n'arrive. Parce qu'il l'aimait. On voit l'amour, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'y avait pas de doute, il aimait Jésus. Jésus lui dit, oui, je sais que tu m'aimes. Mais voilà, il va t'y avoir ça, tu vas être crucifié, tu vas mourir. Tu vas mourir très mal pour moi. Il dit, Seigneur, je sais. Jésus voulait lui donner l'occasion de partir. Mais il voulait aussi que lui-même choisisse pour rester. Et nous voyons dans le livre de Jean au chapitre 6, quand tous l'ont quitté. Dans le livre de Jean, on nous parle de quand Jésus a... En fait, voilà, il y a encore un exemple beaucoup plus important. Quand Jésus introduit la Sainte Cène, quand il dit aux gens, celui qui mange de ma chair ni de boit de mon sang ne peut être mon disciple. Ils ont dit, quel enseignement? Ça, c'est un enseignement très dur. Qui peut suivre cela? Personne. Qui peut suivre un tel enseignement? La Bible dit, tous l'abandonnèrent. Les disciples sont restés. Il se tourne vers eux. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Il dit, où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous? Car c'est auprès de toi qu'il y a la parole de la vie. C'est cela la dimension où Dieu nous attend, où nous faisons notre choix nous-mêmes. Parce que quand je fais mon choix moi-même, je m'y accroche. Quel que soit le problème, parce que c'est mon choix. Et on ne peut faire un tel choix que quand on a reçu la révélation du Fils de Dieu. On ne peut pas risquer dans l'ambiguïté. On ne peut pas risquer quand la photo n'est pas claire. Quand la photo est claire, il n'y a pas match, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu t'accroches. Je suis prêt à mourir parce que je sais. Et qui nous amène là-bas? Ce n'est pas seulement nos amis, nos ennemis aussi. Dieu a été avec moi. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant, comme dit Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier.
Vous savez, c'est facile pour un pauvre d'accepter la pauvreté. Mais ce n'est pas facile pour un riche d'accepter la pauvreté. Parce que quand on est pauvre, on développe le mécanisme de survie. On a des repères de survie dans la pauvreté. Le pauvre, pendant une crise économique, ne souffre pas. Ils sont constamment dans une crise économique. Ce sont les riches qui souffrent. Vous voulez ramener le Congo dans une crise. Mais nous sommes déjà dans la crise. C'est vous là qui détruisez Galé Soufré. C'est vous qui êtes habitué à des déjeuners suppléés. Pourquoi je vais dire cela? C'est quand on est déjà dans une situation, on s'adapte. Job n'était pas dedans. Il était là. Quand on l'a ramené en bas, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. On ne parle pas comme ça, à moins qu'on connaisse qui est l'Éternel. Ça veut dire que Job n'était pas rattaché aux ressources, il était attaché à la source. Il savait que la même source intarissable ne m'a pas lâché. Un enfant de Dieu n'est pas influencé par sa position. Un enfant de Dieu est influencé par son positionnement vis-à-vis de Dieu. Que je sois simple chauffeur, que je sois ministre dans un cabinet, que je sois président de la République, montez voir, c'est d'abord de pleurer à Dieu. Ça, c'est important, mes amis. Quatre choses, l'amour, la grâce, le pardon et l'espoir. Et il n'y a aucun temps, je vais finir par cela, il n'y a aucun temps dans l'histoire, il n'y a aucun événement dans l'histoire de l'humanité là où ces quatre choses ont convergé. Il n'y a pas un seul événement dans l'histoire là où on retrouve ces quatre choses en alignement. Plus que la croix de Christ. La croix de Jésus-Christ est le seul événement dans le monde où ces quatre choses sont venues en alignement. L'amour de Dieu pour l'humanité qui a conduit Jésus à la croix. La grâce de Dieu qui en était le résultat. Le pardon qu'il a accordé à ses bourreaux. Et l'espoir, quand tu l'as dit, tout est accompli. L'amour, sans lequel nous ne pouvons rien faire, sans l'amour, Christ n'irait pas à la croix. La Bible dit, car Dieu a tant aimé. C'est à cause de l'amour qu'il est allé à la croix. C'est l'amour qu'il a envoyé à la croix. Quand on aime, on paye le prix. Quand on aime, on sacrifie. C'est l'amour de Dieu qui l'a conduit à la croix. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu sacrifies. Quand tu aimes, tu payes le prix. Mais l'amour ne s'efforce pas. Tu ne peux pas créer un amour. L'amour se crée de soi-même. C'est pourquoi, mes amis, comme je l'ai toujours dit, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. On n'achète pas ça. On n'épouse pas quelqu'un qui ne t'aime pas. On ne se marie pas dans le parler en langue seulement. On ne choisit pas quand on est sous l'onction. Parce que l'onction n'a pas de discrimination. Mais le choix doit avoir des discriminations. La plupart d'entre vous, vous vous mariez dans la prière. Après, vous nous causez beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu'on ne se marie pas par la prière. Non, on se marie par la prière, mais pas dans l'intensité des émotions. On prie pour que Dieu nous conduise vers notre choix. Et quand le choix est là, on demande à Dieu, est-ce que je suis dans le bon? On vérifie avec ses anciens, papa, maman,
est-ce que je suis dans le bon? Parce que de sorte que si vos yeux à vous sont bouchés par les émotions, les yeux de papa, de maman, ils ne sont pas bouchés, ça regarde. Vous commencez à nous prendre des heures parce que vous n'avez pas entendu. Ma femme et moi, on a passé presque 5 ans à se battre pour sauver le mariage d'un pasteur qui ne voulait pas nous écouter. Il va se marier dans la chair. Il dit, j'ai prié, j'ai eu une vision, mon frère. J'ai dit ça, mon ami. J'ai dit, mon frère, quand je regarde la dame là, c'est pas ça. Prie bien. Il dit, non. Il est le genre de ce que j'aime. J'ai dit, je comprends. Les genres, ça change. Surtout les genres extérieurs là. Ça change. Et change encore. Prie à Dieu. Il dit, non, je suis amoureux. J'ai dit, je ne refuse pas. Moi aussi, je suis amoureux. Mais toi, tu es mal amoureux. Il n'a pas écouté. Il m'a dit, tu es mon frère, tu es mon ami, tu dois bénir mon mariage. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, mon frère, prions encore. Quand on prie avec madame, on sentait que ce n'est pas ça. Mais il y a des pasteurs. Parce qu'il est pasteur, il n'écoute personne. Il dit, moi, Dieu m'a dit. C'était maintenant la guerre des deux dieux qui parlent. L'un m'a dit que ce n'est pas ça, son Dieu a lui dit que c'est. Mais il fallait attendre le temps pour prouver lequel Dieu était Baal et lequel Dieu était le Dieu d'Élie. Ils n'ont pas fait 2 ans. 3 heures du matin. Je viens, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon frère, j'ai épousé un démon. Je dis, non. C'est le genre de femme que tu aimes. On a essayé pendant des années. La femme me dit, pasteur, si cet homme est un homme de Dieu, c'est que nous irons tous en enfer. Seigneur, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Ils ne sont plus ensemble, mais tous deux sont pasteurs. Il a son église, la femme a son église. Mais ils ne se parlent pas. Si je parle pas de cet amour-là, je parle d'un amour vrai. Ça conduit Jésus à la croix. La deuxième chose, c'est la grâce. La grâce, c'est quand nous avons fait mal, Dieu nous pardonne, il nous rachète, il nous récupère. Et le pardon, c'est ce qui nous garantit une relation renouvelée. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous pardonne, mais nous aussi, nous pardonnons aux autres. Et pas seulement pardonner aux autres, il y a aussi une autre dimension de pardon que les gens négligent. C'est la capacité à accepter le pardon. On pardonne, mais parfois c'est difficile de se pardonner soi-même. On vit dans la culpabilité. Même quand on a confessé que Dieu a pardonné le diable, il te dit, ce n'est pas suffisant. Tu dois passer par la mortification. Les catholiques appellent cela la pénitence. Tu dois souffrir dans ton corps. Mais si Christ a déjà souffert, pourquoi moi je vais souffrir? Accepte le pardon que Dieu te donne. Et l'espoir. L'espoir, c'est justement ce que le frère disait, c'est regarder à ces milliards de ballons dans l'océan et dire, c'est là où je pars. C'est ça, l'espoir fait vivre. J'ai cet espoir-là que je vivrai. Mais touchons un peu rapidement sur cette histoire de pardon. Le manque de pardon, comme je l'ai toujours dit, mes amis, ça crée une habitation dans nos cœurs. Parce que tout le monde à qui on refuse le pardon devient un invité d'honneur dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. C'est comme ça que la nourriture que tu manges avec lui. Il te cause des palpitations parce qu'il est là avec toi. Vous partagez l'air que vous respirez. Et tu ne peux pas avancer parce qu'il est là. Tu ne peux même plus te marier parce qu'il est toujours là. Tous les hommes sont devenus des diables. Toutes les femmes sont devenues des Jézabel. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a fait du mal. Quand on pardonne, on se libère. Quand on pardonne, on se libère. C'est comme si, quand on ne pardonne pas, on fait un voyage avec des excédents de bagages. Et ça coûte cher. Croyez-moi, je voyage avec des excédents de bagages. Ce n'est pas plaisant. Quand on ne pardonne pas, on a des excédents de bagages. Et, comme je l'ai dit, le pardon nous libère, le pardon nous affranchit. Et quand on le fait, on est libre devant Dieu. Et c'est cela que Dieu voulait dire à Pierre, que dans cette marche, Quand tu seras converti, entre maintenant où je t'ai appelé et l'apôtre que tu deviens, tu auras besoin de mon amour pour te soutenir, de ma grâce pour te partir, pour toujours te ramener, de mon pardon pour te reconnecter à moi et de l'espoir que je sais que je t'ai promis, je le réaliserai. Que Dieu le bénisse, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. J'espère que cet après-midi et ce matin, le Seigneur t'a visité. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je sais que je ne peux rien faire de par moi-même, mais ta grâce, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ta grâce, ta miséricorde. Ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde. Prie à Dieu, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me fasses grâce pour que je devienne celui que tu veux que je devienne. Aide-moi à arriver là où je dois arriver. Tu m'as appelé pas parce que je suis déjà un produit parfait. Tu m'as appelé parce que je tends vers la perfection de ce que tu as prévu que je devienne. Prie le Seigneur. Lève-toi, prie le Seigneur, prie Dieu dans ton cœur. Oh, hallelujah. Seigneur notre Dieu, j'en appelle à ton nom ce matin, Dieu des esprits de prophètes, Dieu d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde. Toi qui as aimé mon frère, toi qui as aimé ma sœur, intensement, Seigneur, que tu as prévu que ce matin, nous ayons l'opportunité de partager ta parole. Depuis le matin, tu nous as bénis énormément, Seigneur. Et en ce moment aussi, tu continues à nous visiter. Étends ta main de grâce. Étends ta main de gloire. Change nos vies, Seigneur. Viens nous amener là où nous devons être. Rappelle-nous qui nous sommes et à qui nous appartenons. Fortifie notre foi. Encourage notre cœur. Que nous puissions marcher, continuer à pousser fort jusqu'à ce qu'on arrive là où nous devons arriver. Que toi seul nous assiste, que toi seul nous encourage, nous fortifie. Au nom de Jésus. Bénis l'église là-bas, ton serviteur, le pasteur Maurice, son épouse, ta servante et les enfants, et toute la communauté des anciens, des diacres, des serviteurs et servantes des différents départements. Seigneur, aussi fortifie et console nos cœurs. Par rapport à notre frère que nous avons perdu, que tu nous donnes encore un cœur de joie, célébrer son retour vers ta gloire, car maintenant nous savons qu'il danse avec toi autour du trône de gloire avec les anges qui célèbrent la vie qui a été la sienne. Merci pour l'église là-bas qui transforme des communautés dans cette ville. Continue à utiliser les frères et sœurs et ceux qui sont en position d'autorité. Ceux qui assument des postes et des responsabilités, que tu marques une différence, Seigneur notre Dieu, afin que l'on voit à travers leur marche qu'ils sont en train d'évangéliser Jésus, le ressuscité de Galilée. Seigneur notre Dieu, merci. Parce que lui qui était mort à Jérusalem, qui est ressuscité aussi, au vu et au su de tout le monde, vit dans nos cœurs. Bénis les hommes, bénis les femmes. Bénis les enfants, les vieux et les jeunes. Que ta grâce, les hommes et les femmes, que ta grâce descende sur nos vies, afin que nous soyons une véritable interprétation de ton amour. Une véritable interprétation de ton amour. Une interprétation physique de l'amour de Dieu. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Que les malades ce matin soient guéris. Ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Que quand ils rentrent dans leur maison, Seigneur, qu'ils trouvent que le Saint-Esprit a déjà résolu le problème qui les terrifie. Et que la dépression quitte les corps au nom de Jésus. Que la joie que nous a prêchée le matin rentre dans nos cœurs. Que cela rentre dans nos cœurs. Que cela remplisse nos cœurs. Que la peur quitte nos esprits. Que la grandeur nous accompagne. Que les maladies tombent, que la guérison remplisse ton corps. Alors que nous sortons de cet espace rempli de ta présence, que toutes les maladies tombent au pied de la croix et que nous sortions de ces lieux guéris de maladies connues et inconnues au nom de Jésus. Et que les démons qui tourmentent notre existence tombent au nom puissant de Jésus et que nous soyons libres. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi, peuple de Dieu. Que sa bonté se tourne vers toi. Que sa lumière puisse luire autour de toi et sur toi, au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu. Que tous les peuples de Dieu, haut et fort, dites merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse.